VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. Centrafrique, le président français François Hollande s'apprête à quitter Bangui après un séjour de quelques heures. Sa troisième visite dans le pays depuis décembre 2013. Accueilli à son arrivée à l'aéroport de Mpoko par son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra, le président Hollande avait pour objectif de réaffirmer le soutien de Paris à la reconstruction et à la stabilisation de la RCA en plein désengagement militaire de la France d'un pays ruiné. Entre autres, François Hollande a eu des consultations avec le président Touadéra et est passé au quartier musulman de PK5 avant de retourner à l'aéroport de Mpoko où il doit partir incessamment à destination d'Abuja au Nigeria. À Abuja, le chef de l'État français sera le seul président non africain à participer demain à un sommet régional sur la sécurité consacré à la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. Un premier sommet sur ce combat avait été organisé à Paris le 17 mai 2014. Le soutien de Paris en matière militaire et de sécurité aux quatre pays principalement touchés par les attaques de Boko Haram, à savoir Nigeria, Niger, Tchad et Cameroun, atteint déjà 25 millions d'euros par an. Nous allons poursuivre ce soutien avec les Américains et les Britanniques, avec qui la coordination est très bonne, a souligné un diplomate français. En RDC, l'opposant Moïse Katumbi est resté seulement 1h30 aujourd'hui au palais de justice de Lubumbashi dans le sud-est du pays, où il devait être entendu de nouveau par un magistrat du parquet pour présumé recrutement de mercenaires. L'ex-gouverneur du Katanga et candidat à la présidentielle censée avoir lieu à la fin de l'année a soutenu qu'il avait été agressé par la police en arrivant sur les lieux et il a obtenu du magistrat chargé de l'enquête l'autorisation d'aller se faire soigner. La police avait fait usage de gaz lacrymogène pour refouler plusieurs milliers de partisans de M. Katumbi massés à proximité du palais de justice. Mais le général Jean Bosco Galenga, chef de la police provinciale, dément les allégations de Moïse Katumbi et affirme que 6 policiers ont été blessés. Et toujours concernant la RDC, Londres et ses partenaires européens envisagent des sanctions ciblées contre des responsables d'actes de répression politique dans le pays. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à Kinshasa, l'émissaire spéciale de la Grande-Bretagne pour la région des Grands Lacs, Danae Dolakia. Au Burundi, une centaine de personnes ont été arrêtées aujourd'hui dans le quartier de contestataires de Musaga, dans le sud de la capitale Bujumbura, lors de descentes musclées des forces de sécurité, lesquelles multiplient les rafles ces dernières semaines, selon des témoins et des membres de l'administration. Le maire de Bujumbura, Freddy Mbonimpa, a justifié ces opérations par la nécessité de contrôler et maîtriser les mouvements de population. Dans une opération similaire, ce matin, des dizaines d'hommes et de jeunes gens ont été arrêtés dans la commune de Mugamba, province de Bururi, dans le sud, selon des témoins. Par ailleurs, une année déjà, depuis que le président burundais, Pierre Nkurunziza, a surmonté un coup d'État tenté par plusieurs généraux de l'armée. Le début d'une longue crise qui perdure jusqu'à maintenant. La cause demeure la décision du chef de l'État de briguer un troisième mandat controversé, rejeté par l'opposition et une fraction des partisans du pouvoir. Depuis cette décision fatidique, des centaines de personnes sont mortes et des milliers d'autres ont pris le chemin de l'exil. Pour sa part, la communauté internationale continue de réclamer la tenue d'un dialogue inclusif qui pourrait débuter vers la fin du mois à Arusha, en Tanzanie. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Pour les centaines de milliers de sympathisants du pouvoir de Bujumbura, une année vient de s'écouler depuis le coup d'État raté contre Pierre Nkurunziza. Une partie de la société civile rassemblée au sein d'un collectif des organisations pour le développement intégré des populations, CODIP, qui ont célébré ce jeudi pendant plusieurs heures, alors que le président burundais était en Tanzanie pour le sommet de l'Afrique orientale. En général, l'armée proche de Pierre Nkurunziza a voulu changer les institutions. Godefroy Niyombare et d'autres généraux ont voulu préserver, selon leur dire, l'accord de paix d'Arusha. D'autres généraux loyaux au président burundais s'y sont opposés. La crise politique et sécurité qui s'en est suivie subsiste même aujourd'hui. Des généraux de l'armée et des civils continuent à mourir. Le Rwanda voisin, pointé du doigt par les autorités burundaises d'abriter les rebelles, a toujours nié. Les pays de la région abritent plus de 250 000 réfugiés selon les Nations Unies, mais un espoir pointe à l'horizon avec le début de négociations qui sont programmées, cette fois-ci vers le 21 de ce mois à Arusha. Est-ce la fin de la crise politique au Burundi? Wait and see, comme disent les Anglais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA. VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, 37 personnes mises aux arrêts pour leur implication présumée dans les affrontements intercommunautaires entre Bambara et Peula Malimana dans la commune rurale de Kariri, cercle de Tenenko dans le centre du pays. Le point avec notre correspondant Amopti Mamadou Bokoum.
Ils sont au nombre de 37 personnes arrêtées dans la commune rurale de Kariri, cercle de Tenenko, entre mercredi et jeudi. Ces personnes sont suspectées d'avoir participé directement ou indirectement dans les tueries survenues dans la zone suite aux affrontements entre Peul et Bambara. Ces auteurs présumés sont à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie pour des enquêtes préliminaires, nous signale le procureur de la République du tribunal de grande instance de Mopti, Bandjougou Fofana. Si les charges sont retenues contre ces personnes, elles seront déférées devant le parquet de Mopti. À titre de rappel, les affrontements qui ont eu lieu entre Bambara et Peul ont fait 24 morts et 5 blessés selon le bilan officiel. Pour l'instant, la situation est calme sur le terrain. Mamadou Bokoum Amopti pour VOA Afrique.
Burkina Faso, l'armée burkinabé souhaite retirer ses hommes des missions de la paix de l'ONU. Le général Pingré Noma Zagré, chef d'état-major des armées, l'a fait savoir jeudi lors de la visite du président Roch-Marc Christian Kabore dans un camp militaire de la banlieue de Ouagadougou où ont lieu des manœuvres multinationales. Un exercice auquel participent environ 300 militaires venus de 15 pays d'Afrique et de 8 pays occidentaux pour une formation dans la lutte contre le terrorisme. Plus de détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
La première participation du Burkina Faso à une opération de soutien à la paix remonte à l'année 1993. Cela fait donc 23 ans aujourd'hui que l'armée burkinabé est engagée dans les théâtres d'opération en Afrique et même à Haïti. Seulement voilà, le pays qui semble être épargné est devenu lui-même la cible des terroristes. On a toujours en mémoire l'attaque de l'hôtel Splendide et du bar-restaurant Le Cappuccino à Ouagadougou, l'attaque de la gendarmerie du Samorogan à l'ouest burkina. Face donc à cette situation, la hiérarchie militaire estime que le feu étant dans la maison, il faut mobiliser tous les efforts pour l'endiguer. Voilà pourquoi le chef d'état-major général des armées, le général Pingré Noma Zagré, a laissé entendre que le Burkina souhaite retirer ses hommes dans les opérations de maintien de la paix. Le Burkina a 3 bataillons au Darfour et au Mali et chaque bataillon compte 850 hommes. La question était de savoir, faut-il se retirer du Mali ou du Darfour? La distance semble plaider pour le Mali voisin, mais il faut le retenir. On ne se retire pas facilement d'une mission de paix onusienne. Il y a beaucoup de démarches à faire. Sinon, on s'expose à des sanctions, nous a confié un haut gradé. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Proche-Orient, le Hezbollah libanais a annoncé la mort de son chef militaire en Syrie, Mostafa Badreddine, l'un des 5 membres du mouvement chiite accusé du meurtre de Rafik Hariri, l'ancien premier ministre libanais. Des détails avec Idriss Fall.
S'en allant à la guerre, Mostafa Badreddine avait dit, comme par prémonition, « Je ne reviendrai pas de Syrie sauf en martyr ou en portant le drapeau de la victoire ». Le Hezbollah a déclaré que son commandant en chef, âgé d'environ 55 ans, est mort dans une grande explosion près de l'aéroport de Damas. La faction chiite libanaise, ennemie jurée d'Israël, dit enquêter sur l'origine de l'explosion qui pourrait être une frappe aérienne, un missile ou un tir d'artillerie. Badreddine était en Syrie pour appuyer le président Bachar al-Assad contre les rebelles. Sa mort fait perdre au groupe de Hassan Nasrallah l'un des plus importants leaders depuis la mort en 2008 de Imad Mughniyeh, son ancien chef militaire. D'ailleurs, Badreddine sera enterré à ses côtés à Gobeiri, dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Le tribunal spécial pour le Liban avait lancé un mandat d'arrêt contre Badreddine, qualifié de cerveau dans l'assassinat en 2005 de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri, un sunnite. Le Hezbollah avait rejeté toute paternité dans l'attentat et exclut la remise du suspect à la justice.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.